Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Carlos Ghosn de retour en prison, cas exceptionnel. Alors qu'il avait été libéré sous caution, l'ex-patron de Renault a été de nouveau arrêté au petit matin à Tokyo. Justice d'otage, dit son avocat. Ghosn en appelle à la France. La réponse de Bercy est plus que fraîche. Présomption d'innocence, oui, mais de nouveaux éléments sont transmis par Bercy à la justice. L'essentiel, dit le ministre Bruno Le Maire, c'est Renault. Dossier complet dès le début de ce journal. Nous allons en particulier à Tokyo. Vers un retour de l'encadrement des loyers à Paris, le décret qui permet son application est signé. Autre ville probablement candidate, Lille et Grenoble. Le premier débat de la campagne des européennes, c'est sur France Inter ce soir. Quel programme, quels arguments pour les principaux candidats? Nous verrons cela avec Louise Baudet. Emmanuel Macron, lui, est en Corse. Sur le trajet entre l'aéroport et le village où se tient le débat, une ribambelle de drapeaux corse. L'étude qui nous incite fortement à surveiller notre alimentation. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Étude de la revue scientifique de l'Inset.
Un décès sur 5 est lié à une mauvaise alimentation. Trop de sucre, trop de sel, trop de produits transformés. Il faut rééquilibrer son alimentation.
Les détails avec vous tout à l'heure. Dans ce journal encore, la manifestation à Toulouse contre les réformes Blanquer appelle à la grève aujourd'hui dans l'éducation nationale. Elle est nettement plus suivie dans les écoles que les collèges et lycées. Brexhausted, contraction de Brexit, et exhausted, épuisé, expression à la mode dans la City qui n'en peut plus des incertitudes.
Il y a de moins en moins de patience. Les investisseurs ne viennent pas au Royaume-Uni et investissent ailleurs. Et donc, cette incertitude, sa prolongation, ses extensions poussent tout le monde à bout.
Reportage tout à l'heure, Antoine Gignot. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Que nous dit Météo France aujourd'hui? Les températures repartent doucement à la hausse.
Oui, après deux journées très fraîches, les températures maximales vont se rapprocher des moyennes de saison, excepté dans l'Est et le Nord-Est où les valeurs attendues ne dépasseront pas 7 à 10 degrés. Dans les autres régions, elles évolueront entre 11 et 17 degrés. Puis côté ciel, le temps sera encore maussade près des frontières de l'Est. Des averses se produisent en Corse, mais aussi du côté de la Bretagne et de la Normandie. Et partout ailleurs, belles éclaircies et cumulus souvent inoffensifs vont se partager le ciel.
A tout à l'heure pour d'autres détails. Nous vous raconterons également l'histoire de cette vente aux enchères de chiots. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Cette affaire est unique, inouïe, de bout en bout. Plus d'un mois après avoir versé une caution de 8 millions d'euros pour être libéré, Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault, dormira ce soir à la prison de Kosuge à Tokyo. L'ex-PDG de Renault a été arrêté une fois de plus. Nouveau soupçon de détournement de fonds, ce serait sa quatrième mise en examen depuis le mois de novembre. Je n'entravais pas la procédure. Pourquoi m'arrêter si ce n'est pour me briser? Écrit Ghosn dans un communiqué. Il écrit et même il parle. Interview via Skype avec nos confrères de TF1 et le CI. Il en appelle à la France.
Je suis combatif, je suis innocent, c'est dur, et je fais appel au gouvernement français pour me défendre, pour préserver mes droits en tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable à l'étranger. Il y a beaucoup de mensonges dans ce qui a été dit, et ces mensonges sont en train de se révéler les uns après les autres. Il y a un acharnement, et cet acharnement, il a démarré le jour de mon arrestation. Il s'est jamais arrêté. Il n'y a pas eu un jour au cours desquels il n'y a pas eu de nouvelles accusations, il n'y a pas eu de nouvelles rumeurs, des faits qui sont sortis de leur contexte. Il y a eu une démolition systématique. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de ça. Ils bénéficient de complicité aussi à l'extérieur de Nissan. Ils ne se sont pas suffi d'influencer et d'agir au Japon, ils agissent à l'extérieur du Japon et notamment en France.
Et la réponse de Bercy à l'appel de Carlos Ghosn est très fraîche, nous l'entendrons. D'abord, nous allons à Tokyo. Bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
20h03 à Tokyo. Yann, vous êtes le chef du bureau des Échos dans la ville, notre précieux interlocuteur depuis le début de cette affaire. Carlos Ghosn arrêté au petit matin, dans quelles conditions? Est-ce qu'on en sait plus?
Alors, les hommes du procureur sont arrivés un petit peu avant 6h du matin, ils ont sonné, Carlos Ghosn a ouvert. Il est dans un petit appartement d'environ 50 mètres carrés, et il était avec son épouse, Carole, qui était là. Et ils étaient une douzaine d'hommes du procureur qui ont fouillé beaucoup, qui ont pris les notes qu'il avait prises pour organiser sa défense. Ils lui ont repris son téléphone portable, il avait un vieux téléphone sans écran seulement pour la voix. Et ils ont aussi pris le smartphone de son épouse ainsi que son passeport. Et ensuite, ils l'ont amené dans une voiture dont on avait caché les fenêtres, chez le procureur, pour que le procureur lui signifie sa nouvelle mise en accusation. C'est comme ça qu'on dit au Japon, Kiso. Oui. Et ensuite, il est parti, comme vous l'avez dit, à Kosuge, la prison où il a passé tant de temps pour y dormir ce soir.
Alors, son avocat parle d'une justice d'otage, très en colère, l'avocat.
très en colère. C'est un vieux monsieur de plus de 70 ans, qu'en a vu d'autres. Et là, il était extrêmement remonté cet après-midi. Il disait « Carlos Ghosn est à votre disposition, monsieur le procureur. Pourquoi avez-vous fait ça ? Il n'avait que ça à faire, venir vous parler, répondre. Vous auriez pu le mettre en examen sans lui imposer ça. » Une justice d'otage, c'est-à-dire qu'on le, on l'humilie, on le force, on le casse moralement jusqu'à ce qu'il avoue la totalité des faits, puisque Carlos Ghosn nie toujours tout ce qu'on lui reproche.
Alors, cela dit, les dernières accusations sont lourdes. Hein. 15 millions de dollars venus de Nissan qui auraient été détournés à des fins personnelles vers une société contrôlée de fait par Ghosn. Après cette arrestation, quelle suite, Yann Rousseau ?
Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il est à la disposition du procureur pendant 48 heures en détention. Il n'est pas encore en garde à vue. La garde à vue, elle n'est possible que si on le présente à un autre juge qui accepte cette garde à vue. Vous savez, c'est pour 10 jours renouvelables, encore 10 jours, donc 3 semaines. Donc ça, ça va se passer demain soir. Pour l'instant, il peut être entendu par le procureur à n'importe quel moment et il n'est pas encore officiellement en garde à vue. On le saura demain soir. Son avocat promet de se battre contre cette détention.
Merci Yann Rousseau en direct de Tokyo où il est 20h06. Alors ces transferts de fonds suspects dont je parlais, intriguent au Japon, mais aussi en France. Renault a fait un signalement à la justice. Ce matin, le ministre des Finances à Bercy dit lui aussi avoir transmis des éléments nouveaux et importants à la justice française. Autant dire que la réponse de Bruno Le Maire à l'appel de Carlos Ghosn est fraîche.
Moi, mon rôle, c'est de faire la transparence comme État actionnaire sur tout ce qui a pu se passer chez Renault. J'ai demandé depuis plusieurs mois que la gouvernance de Renault fasse toute la transparence sur les années passées. Je crois que cette exigence de transparence, c'est celle de l'État actionnaire et c'est celle évidemment de tous nos concitoyens. Donc il y a un certain nombre d'éléments nouveaux qui ont été portés à notre connaissance et ces éléments nouveaux justifient qu'ils soient transmis à la justice. Je ne me prononcerai pas sur le fond de ces éléments parce qu'il y a une procédure de justice et c'est à la justice d'évaluer ces éléments, mais ils étaient suffisamment significatifs pour qu'il soit nécessaire de les transmettre à la justice française.
Un propos recueilli par Margot Delpierre, voilà ce que l'on pouvait dire à 13h07 sur cette nouvelle arrestation de Carlos Ghosn qui dormira donc ce soir à la prison de Kosugé. Le Brexit est toujours aucune décision de prise, aucune clarté de fait à 8 jours de l'échéance théorique. On donnera les derniers développements dans un instant. D'abord, ce reportage d'Antoine Gignot sur les conséquences économiques, l'incertitude à la City. Antoine.
C'est devenu une expression à la mode. Pour dire leur ras-le-bol, les traders, les financiers rajoutent dans leur message le mot « Brexhausted », contraction de Brexit et exhausted, épuisé à cause de cette sortie interminable de l'Union européenne. Fabrice Montagnier est économiste en chef à la banque Barclays et il confirme « la City est au bord de la crise de nerfs ».
Il y a de moins en moins de patience. On ne sait plus par quel bout prendre les marchés britanniques, la monnaie, etc. Les investisseurs ne viennent pas au Royaume-Uni et investissent ailleurs. Et donc, cette incertitude, sa prolongation, ses extensions poussent tout le monde à bout.
Et ça ne va sans doute pas s'arranger dans les jours qui viennent. Le risque d'une sortie sans accord est à un niveau alarmant, explique le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et pour la première fois depuis 2016, les indicateurs économiques sont au rouge. Les entreprises stockent pour anticiper la catastrophe et la croissance ralentit.
C'est pas bon. Le dernier chiffre montre que l'économie serait en train de se contracter. Alors, ce que nous dit par exemple la Banque d'Angleterre, c'est qu'une grande majorité des entreprises disent s'être préparées à une sortie du Royaume-Uni sans accord, mais les mêmes entreprises disent aussi qu'il y aura énormément d'imprévus si ce scénario se matérialise.
Dans la finance, près de 1500 emplois ont déjà été délocalisés vers le continent, Dublin, Francfort, Paris, plusieurs milliers d'autres sont prêts à basculer. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Dernière initiative politique pour sortir de l'impasse, le dialogue entre Jeremy Corbyn et Theresa May, les deux adversaires politiques à Londres. Dialogue entamé hier, pour l'instant pas de résultat tangible. En tout cas, cette initiative est saluée par le négociateur en chef chez les Européens, Michel Barnier. Il salue ce dialogue interparti. Et puis le geste du Parlement européen qui approuve l'exemption de visa pour les Britanniques qui effectueraient de courts séjours dans l'Union européenne après le Brexit, même en cas d'absence d'accord. D'accord, exemption de visa, à une condition que les Britanniques fassent la même chose pour les citoyens européens.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et les études qui s'accumulent au fil des années pour nous inciter à être toujours plus vigilants, plus attentifs à notre alimentation, ses conséquences sur la santé et l'environnement. Daniel Messager, comme promis, vous êtes avec nous pour parler de cette étude de la revue scientifique de Lancet, un décès sur cinq dans le monde est dû à une mauvaise alimentation.
Et pourtant, on a l'impression que tout le monde le sait, que manger mal, c'est mauvais pour la santé. Mais l'étude du Lancet tombe à point nommé pour rappeler qu'on peut avoir la main sur sa santé dans ce domaine, que la quasi-totalité de ces décès a été provoquée par des maladies cardiovasculaires, le reste par des cancers. La mauvaise alimentation, c'est d'ailleurs, après le tabac, le facteur de risque évitable dans le cancer. Alors, les responsables sont le sucre, le sel, la viande transformée, consommée en trop grande quantité. Le problème avec le sucre et le sel, ce n'est pas ce qu'on consomme dans son yaourt ou sur ses pâtes, ceux-là sont bien visibles, mais c'est ce qui est ajouté par les industriels et qu'on ne voit pas. 80% du sel et 70% du sucre que nous absorbons proviennent d'aliments transformés. Alors les auteurs de l'étude préconisent deux opérations simples. Une division par deux du sucre et de la viande, une multiplication par deux des fruits, des noix et des légumes. 195 pays ont été étudiés. La France fait partie des bons élèves ainsi que l'Espagne et Israël. Là où le nombre de décès liés à la mauvaise alimentation est le plus important, c'est en Ouzbékistan et en Afghanistan. Et le lien est flagrant avec une espérance de vie. Selon l'OMS, dans les pays avec une relative bonne alimentation, elle est supérieure en moyenne de plus de 15 ans.
Sucre et sel divisé par deux, fruits et légumes multipliés par deux.
Vous avez tout bien compris.
On retient ça. Merci Daniel Messager. On entendait Bruno Le Maire à l'instant, le ministre de l'économie, qui a fait une autre annonce importante ce matin par parler de Carlos Ghosn. Les retraites chapeaux, ces sommes parfois faramineuses versées aux dirigeants de grandes entreprises, seront bientôt plus strictement encadrées, limitées à 30% du salaire, et il sera interdit de les cumuler avec une clause de non-concurrence. Cela figurera dans le projet de loi Pacte actuellement examiné. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Autre encadrement, celui des loyers dans les villes qu'ils souhaitent, Paris en particulier. Le décret permettant de remettre la mesure en place vient d'être signé.
Et oui, ce sont aux villes maintenant de se porter candidates pour cette expérimentation qui va jusqu'à fin 2023. Paris effectivement au premier rang, mais d'autres communes de la couronne parisienne également, ainsi que vraisemblablement Lille et Grenoble. Paris, dès le mois de juin, si possible, dit l'adjoint chargé du logement Yann Brossat, qui fait ce constat, on ne peut pas continuer à avoir des loyers qui atteignent de tels niveaux. Et après l'application de cette mesure, entre 2015 et 2017, il ne doute pas de son efficacité.
Grâce à ce dispositif, les loyers se sont stabilisés après 10 ans de hausse ininterrompue, puisqu'entre 2005 et 2015, les loyers parisiens avaient augmenté de 50%. Donc l'expérience est faite, avec l'encadrement des loyers, les loyers se stabilisent. Sans encadrement des loyers, les loyers explosent.
Mais pour les professionnels de l'immobilier, cette mesure au contraire a des effets pervers. Notamment, elle fait peur aux bailleurs, affirme Laurent Vimon, le patron du réseau immobilier Century 21.
Il y a une règle de base dans ce métier, c'est que pour qu'un locataire se loge, il faut qu'il y ait un logement, et pour qu'il y ait un logement, il faut un bailleur. Et quand on impose ces règles à ces bailleurs, ils ont un droit absolu, c'est de quitter le marché. Les bailleurs choisissent de partir dans une autre activité, reprennent leur logement, le gardent vide pour certains, ou le mettent sur Airbnb. Ça tue le marché.
Le meilleur moyen de faire baisser les loyers à Paris, toujours selon Laurent Vimon, ce n'est pas de les encadrer, c'est de construire plus de logements.
L'actualité économique et sociale, c'est aussi la bataille de chiffres entre l'éducation nationale et les syndicats. En ce jour d'appel à la grève dans les écoles, collèges et lycées contre les réformes Blanquer. 15% de grévistes dans les écoles, dit le ministère. 25% dit le SNUIPP, principal syndicat. Il y a des disparités régionales. Beaucoup de grévistes en région parisienne. On est au-delà des 50%. On est autour de 40% à Nantes et Toulouse, où Stéphane Iglesis s'est glissé dans le cortège de manifestants.
La dernière fois qu'une petite centaine d'enseignants s'est retrouvée au rectorat, il y a 15 jours, ils s'étaient fait copieusement gazer par la police afin de permettre la sortie d'un véhicule bloqué acheminant vers un centre d'examen les sujets de l'agrégation. Ce matin, tout s'est bien passé, plus tranquillement en tout cas, la détermination reste entière. Basile Mouton est prof d'anglais CGT au collège de Bellefontaine.
On demande de plus en plus tôt aux élèves de se positionner, même aujourd'hui, dès même la troisième, pour savoir ce qu'ils vont faire après le bac. On a affaire à une loi en fait qui remet en cause le cadre national du bac. Si tout ça est mis en place, c'est aussi parce qu'il y a une logique de restriction budgétaire. Il y a 120 000 postes de fonctionnaires en fait à supprimer selon Macron. Et en supprimant 120 000 postes de fonctionnaires, on va mieux arriver à faire tourner l'école. Et le mensonge est tellement gros qu'il commence à se voir.
Fabrice Coudreau est directeur d'école à l'Arènerie, l'un des quartiers de l'éducation prioritaire.
Ce regroupement des écoles en école des savoirs fondamentaux ne nous convient pas du tout. Pour qui? Quelles écoles? Les directeurs seront-ils des courroies de transmission de la politique du ministère? Ou continuera-t-on à voir les directeurs n'ont pas de statut différent que leurs collègues?
Dans une lettre envoyée au directeur d'école, le ministre de l'Éducation précise que ces établissements des savoirs fondamentaux ne se feront qu'avec l'accord des municipalités et sur la base du volontariat. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Voilà, et donc la grève nettement plus suivie dans les écoles que les collèges et lycées. Les retraites, à ce stade de cacophonie, dans la majorité, on confine au sublime. L'âge légal de départ à la retraite ne bougera pas, disait hier le chef de file des députés En Marche, Gilles Legendre. La question de l'âge de la retraite est posée, dit ce matin le ministre Gérald Darmanin. Le premier grand débat de la campagne des européennes, c'est sur France Inter que ça se passe. Ce soir à 21h, France Inter et France 2 seront sur le plateau pour l'extrême droite, Jordan Bardella, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, à droite François-Xavier Bellamy, au centre Jean-Christophe Lagarde et Nathalie Loiseau pour la majorité, à gauche du roseau rouge en passant par le vert, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot, Benoît Hamon, Manon Aubry, Yann Brossat, et le groupe est complet avec François Asselineau. Bon courage aux deux journalistes qui vont animer les débats, Alexandra Ben Saïd pour France Inter et pour France 2, Thomas Soto.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en sortant de là, les téléspectateurs et les auditeurs qui auront suivi ce débat se disent, bah tiens, je crois que je commence à savoir pour qui je vais voter. Parce que finalement, voter et s'exprimer pour et non pas être contre ou s'abstenir, dire moi ça m'intéresse pas, bah, c'est quand même mieux parce que c'est participer à la vie de la cité, même quand la cité est européenne, que c'est une très grande cité qui nous paraît un peu loin, un peu compliquée, un peu techno. Et bah, ça va être à eux de nous convaincre que oui, il faut y aller, que le 26 mai, il faut aller voter.
Un propos recueilli par Maxence Lambrec, le mode d'emploi du débat, c'est sur France Inter.fr. Louise Baudet, quelles sont les priorités de chaque parti dans cette campagne ?
Sans surprise, l'immigration est la priorité du Rassemblement National. Expulsion des illégaux, réduction de l'immigration légale à un solde annuel de 10 000 arrivées. Mais le parti de Marine Le Pen n'a pas le monopole du sujet. Nicolas Dupont-Aignan veut lui aussi stopper la submersion migratoire et le rétablissement définitif des contrôles aux frontières intérieures figure au programme des Républicains. L'Europe qui protège, nouveau credo des macronistes via la remise à plat de l'espace Schengen, mais aussi la préférence européenne sur le plan économique et un projet de bouclier social assorti d'un salaire minimum européen. Approche sociale évidemment défendue à gauche, les communistes prônent un plan d'urgence pour les services publics. Place publique, alliée au Parti Socialiste, veut suspendre le CETA et les nouveaux accords de libre-échange. Benoît Hamon défend un ISF européen et la France insoumise un SMIC commun. Enfin, changer l'Europe pour sauver le climat, ambition largement affichée mais principalement portée par les écologistes. À noter que seules deux listes, celles de Florian Philippot et François Asselineau, proposent de quitter l'Union européenne.
Soirée donc à vivre sur France Inter, le débat à 21h, mais dès 20h avec Fabienne Sintès et ses invités, les enjeux, les coulisses. Et puis la soirée est également à suivre sur franceinter.fr et en Facebook Live. Pour Emmanuel Macron, la campagne, c'est le grand débat. 15e et dernier rendez-vous aujourd'hui en Corse. La défiance est particulièrement marquée. Les nationalistes boycottent le débat. Ils appellent à une journée île morte pour dénoncer le mépris de Paris vis-à-vis des Corses. Pas très suivi, cet appel à cesser le travail est manifesté. Quelques dizaines de manifestants à Ajaccio et Bastia. Écoutez les arguments de Jean-Pierre Battestini, secrétaire départemental de la CGT.
Ces questions essentielles de vie chère aussi, de transport, avec les menaces qu'il y a sur la compagnie méridionale et ses 500 employés, la santé, alors que Macron avait annoncé un plan santé l'année dernière, on voit que les hôpitaux publics sont endettés. Donc voilà les vrais problèmes aujourd'hui que la CGT souhaite aborder, et j'espère peut-être que, même si je me fais guère d'illusions, que des réponses sur un vrai dialogue social seront annoncées par Macron aujourd'hui.
Un propos recueilli par Christophe Giudicelli à Bastia. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Bruno.
C'est dans le village de Cozzano que se tient le débat. Particularité de ce village, quelques dizaines d'habitants, mais c'est un village connecté. Alors, sur le chemin et dans la commune, ambiance plus tête de mort que gilet jaune, hein.
Oui, d'ailleurs, ces têtes sur les drapeaux corses, on les a vues sur la route qui mène ici, dans ce village coincé au milieu de la montagne. Drapeaux accrochés au balcon des maisons ou placardés sur les troncs d'arbres tout au long des 60 km qu'Emmanuel Macron parcourt. On a aussi vu un petit groupe de manifestants pour que la langue corse soit officielle avec le français. C'est l'une des questions qui fâchent avec l'autonomie et les prisonniers. Et puis, ce grand débat ne fait pas le plein puisque quasiment la moitié des 360 maires que compte Lille ne viendra pas cet après-midi. L'entourage du président explique en toute simplicité que c'est juste parce que l'accès au village n'est pas pratique. En tout cas, ici, les habitants sont plutôt contents de cette visite.
Pourquoi je vais voir le président ?
Ça te fait bizarre qu'on parle de ton village partout, là ?
Ouais, un peu quand même.
Bon événement, hein. Un président qui vient à Cozzano, on s'y attendait pas. Donc on est heureux de l'accueillir.
Vous attendez quoi de cette visite ?
Qu'ils poursuivent le dialogue avec les élus et puis que l'affaire puisse être solutionnée.
Vous pensez que ça va être tendu ou pas ?
Non, pas du tout, au contraire. Je pense que ça se passera bien et à la limite, c'est même bénéfique.
Et l'apaisement, c'est ce que plaide l'Élysée, qui insiste aussi sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un déplacement spécifique sur la Corse, mais bien dans le cadre du grand débat, avec donc aussi des questions sur la vie quotidienne. Mais le président sait qu'il ne pourra ni éviter les questions, ni surtout rater ce dernier rendez-vous. En attendant, il est en retard, Bruno. Il faut dire qu'il s'est arrêté dans une charcuterie AOP sur la route.
Ah oui, la charcuterie corse, ça, c'est difficile d'y résister. Merci beaucoup, Camille Cronier, les Échos du débat dans nos éditions de ce soir. Trois collaborateurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée, collaborateurs mis en cause par le Sénat, sont convoqués dans le cadre de l'affaire Benalla pour s'expliquer devant les juges, convoqués en tant que témoins dans le volet affaire des passeports diplomatiques de cette affaire Benalla. Quelles seront les prochaines réformes du gouvernement? Eh bien, après le grand débat, le Premier ministre Édouard Philippe promet des solutions puissante. La tendance est à l'annonce de baisse d'impôts, mais sous quelle forme? Parmi les pistes, il y a la suppression de la redevance, impôt injuste, cher à collecter. C'est l'argument pour sa suppression. Alors, pour mémoire, la redevance sert à financer l'audiovisuel public. Nous, si plus de redevance, quoi à la place? Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Comment ça se passe ailleurs en Europe le jeudi dans ce journal de 13h? Alors, comment nos voisins financent-ils leur télé, leur radio publique? D'abord Delphine, combien coûte-t-elle cette redevance?
139 euros en France. C'est vrai que ce montant augmente régulièrement, mais les Français sont finalement mieux lotis que la plupart de leurs voisins. Un rapport de l'Observatoire européen de l'audiovisuel le montre. Les Danois payent cette redevance 326 euros. Plus cher encore, la redevance Suisse, 380 euros. En Allemagne, c'est 215 euros. Mais comparaison n'est pas raison, vous le savez, on le dit. Dans certains pays, la redevance s'applique aussi aux smartphones et aux tablettes. C'est le cas du Danemark et de l'Autriche. Au Portugal, elle s'applique en plus aux résidences secondaires. En Finlande, elle dépend des revenus. Enfin, en Grande-Bretagne, elle est gratuite pour les plus de 75 ans.
Alors, qui finance l'audiovisuel public?
Là encore, pas d'harmonisation européenne. Plusieurs modèles cohabitent avec les nouveaux usages numérique. Certains pays ont déjà réformé leur redevance. Ils la remplacent par une contribution obligatoire et universelle. C'est le cas depuis 2013 chez nos voisins d'Outre-Rhin. En Allemagne, chaque logement paye une seule taxe, peu importe le nombre d'écrans. Alors qu'en France, seuls payent la redevance ceux qui ont un poste de télévision.
Oui, il faut cocher la petite case.
Voilà. Et à la condition aussi, bien sûr, qu'ils acquittent la taxe d'habitation. Enfin, en Italie, les usagers paient la redevance avec leur facture d'électricité.
Oui. Alors, à quoi sert la redevance chez nos voisins?
Dans quelques pays, c'est l'essentiel des financements de l'audiovisuel public, comme en Grande-Bretagne, comme en France. La redevance, à peu près 4 milliards d'euros chaque année, finance à 90% le budget de Radio France et donc de France Inter,
oui.
À 80% le budget de France Télévisions, mais aussi dans une moindre mesure Arte, France Média Monde, TV5 Monde et l'INA. Le reste provient de la publicité, des parrainages et en télévision aussi de la vente des production maison. Une publicité régulièrement pointée du doigt ailleurs que chez nous par les concurrents privés. Ils dénoncent une distorsion de concurrence à tel point que certains pays comme l'Espagne ont tout simplement interdit leur publicité sur les médias publics.
Et ailleurs en Europe, est-ce que ça suscite aussi des débats sur le coût de la télévision publique, sur l'utilisation de l'argent des contribuables?
Aucun pays n'y échappe. On se rappelle du référendum suisse. C'était il y a tout juste un an. Nos voisins ont refusé de supprimer la redevance. 70% ont voté contre. C'est tout le contraire à Chypre et en Hongrie, où il n'y a plus de redevances. Pour certains, la solution, c'est de fusionner les radios et les télés publiques, de faire la chasse aux économies à tous les étages. Ça fait bien longtemps que la BBC a commencé, mais le mouvement est général en Europe. Un paradoxe, alors que l'intérêt pour les programmes de services publics se maintient, la BBC est toujours considérée comme la source la plus fiable pour s'informer. Les fake news ou les infox ont sans doute redonné du peps et de la légitimité à l'audiovisuel public.
Merci Delphine Simon. Mon chronique à retrouver sur franceinter.fr. Vous vous souvenez sans doute de cet accident. Un car scolaire contre un TER en décembre 2017 à Millas dans les Pyrénées-Orientales. 6 collégiens étaient morts. La conductrice du car avait semblé en pilote automatique pendant la minute 30 précédant l'accident. Est-ce parce qu'elle prenait des médicaments? Question posée de manière un peu plus pressante depuis les révélations de nos confrères de France Info aujourd'hui. La conductrice prenait de l'Imovan, médicament contre l'insomnie. Il est précisé sur la boîte qu'on ne doit pas en prendre pendant plus de 4 semaines. Elle en prenait depuis 7 ans. Les familles de victimes envisagent de demander des comptes aux médecins. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Cela amène une question. Quand un médecin prescrit des somnifères, quelles règles, quelles bonnes pratiques?
Alors, c'est prescrit pour les troubles du sommeil. Il faut savoir qu'un Français sur trois en souffre aujourd'hui. Théoriquement, ce n'est pas un traitement de longue durée. On ne dépasse pas quelques jours à quelques semaines. Le médecin doit évidemment expliquer à son patient qu'il y a des risques associés de somnolence. Il doit donc indiquer les précautions à prendre. La règle, c'est évidemment d'éviter les activités qui demandent de l'hypervigilance et donc notamment la conduite. Jacques Battistoni est médecin généraliste.
A priori, les patients qui conduisent, on leur prescrit pas de somnifères du tout. Quelqu'un dont je sais qu'il fait du transport collectif, il n'est pas souhaitable de lui prescrire un médicament comme ça. Il y a des autres moyens que des moyens médicamenteux pour traiter une insomnie, notamment la sophrologie, la relaxation, des thérapies comportementales.
Évidemment, demander la profession du patient est un prérequis. On doit théoriquement le revoir tous les 28 jours pour évaluer avec lui la situation. Après, c'est vrai que les médecins ont parfois en face d'eux des patients nouveaux, accoutumés aux somnifères depuis parfois des années et qui vont avoir beaucoup de mal à s'en passer car le sevrage est très difficile. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Priver de somnifères n'est pas non plus la solution, explique Sylvie Royan-Parola. Elle est spécialiste du sommeil.
On a également des risques de somnolence et notamment d'accidents si on ne prend rien et qu'on n'a pas dormi. Donc c'est toujours très difficile de faire la part entre je prescris un somnifère ou je laisse mon patient ne pas dormir s'il y a un travail à risque notamment. Mmh.
Enfin, un patient dont le métier est de conduire doit théoriquement informer son médecin du travail d'une prise de somnifère. C'est à lui de le faire, pas à son médecin traitant qui est, lui, tenu, vous le savez, au secret professionnel.
Merci Véronique Julia. Cette histoire à présent, au début de l'histoire, un élevage de chiens placé en liquidation judiciaire. Que faire ? Des 300 chiens, eh bien, ils sont mis aux enchères, ce qui fait hurler les défenseurs des animaux, mais n'est pas nécessairement illégal. Le site se trouve à Cossé-le-Vivien, en Mayenne, où vous vous êtes rendu, Stéphane Garcia.
Et sur place, les chiens sont toujours là en attente d'être vendus. Des animaux en cage pour certains dans une bâtisse faite de pierre. D'autres sont là derrière, des enclos dehors. Des chiens de race Shih Tzu, Yorkshire, Chihuahua, Jack Russell, Bichon frisé ou encore Golden Retriever. D'ailleurs, deux hommes étaient également présents sur place pour se renseigner sur les animaux. Dans cette exploitation créée il y a 22 ans, en 1997 à Cossé-le-Vivien, un site qui élevait aussi des bovins et qui à plusieurs reprises ces derniers mois avait été mis en demeure par la préfecture pour manquement aux normes d'hygiène et sanitaire. Un élevage qui avait été placé en redressement judiciaire le 29 octobre dernier, ça n'a pas suffi pour empêcher donc la liquidation prononcée par le mandataire judiciaire. Aujourd'hui, les bovins ont été recueillis, c'était la première partie de la liquidation. Reste ces 300 chiens et chiots, ils ont été examinés pendant deux jours par des vétérinaires, ils doivent être vendus normalement mardi prochain. Une manière, a estimé le liquidateur, de récupérer de l'argent et donc de rembourser les créanciers. On peut trouver ça discutable, certes, sur le plan éthique, mais c'est totalement dans le cadre de la loi, admet une juriste spécialisée dans le droit des animaux.
Voilà pour ces précisions à Laval, en Mayenne.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Jean-Pierre Hameau.
Après deux journées très fraîches, les températures vont afficher une sensible hausse, excepté dans le nord-est où les maximales ne dépasseront pas 7 à 9 degrés. Comptez 7 à Strasbourg, 8 à Besançon et 9 à Nancy. On prévoit 10 à 17 degrés dans les autres régions, avec 10 à Brest et Dijon, 11 à Rennes, 12 à Lille, 13 à Paris comme à Toulouse, 14 à Bordeaux. Comptez 15 à Nice, 16 du côté de Nîmes et 17 à Bastia. Côté ciel, le temps sera maussade cet après-midi avec de faibles précipitations près des frontières de l'Est, mais aussi vers la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire, où là aussi si les passages nuageux lâcheront de fréquentes averses, prévoyez aussi des averses orageuses en Corse et dans les autres régions, votre journée sera assez bien ensoleillée. Demain, une nouvelle perturbation va onduler le long des côtes atlantiques. Partout ailleurs, le soleil sera de la partie.